Vous écoutez On lit pour vous.
La revanche de la table de chevet, numéro 141. Un texte de Jean-Philippe Guy, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Il nous arrive parfois de découvrir des petits trésors de lecture sur le tard. Ces livres, qui ont accumulé injustement la poussière au coin du lit, méritent de prendre leur revanche. De la ville, on voit parfois le village de façon romantique. La proximité avec la nature, la connaissance des gens qui nous entourent et l'atmosphère généralement plus relaxée qu'à la ville en font rêver plusieurs. Cependant, lorsqu'il y a crime, ces mêmes caractéristiques de proximité créent un lieu claustrophobe où les non-dits et les suspicions teintent l'atmosphère et dont l'immédiateté fait augmenter les tensions. C'est cela que nous propose Sébastien Pierrose dans « Deux heures avant la fin de l'été ». Presque un huis clos, une façade rustique derrière laquelle coule le sang. Nous nous trouvons donc dans ce village français de Montgy, dans trois époques successives. D'abord, celle du crime en 1976, où le meurtre d'une jeune fille est résolu très rapidement lorsqu'on trouve un coupable très pratique. Puis nous y retournons en 2002, année où la sœur du narrateur meurt dans un accident, point d'interrogation, de la route. Finalement, le narrateur y retourne en 2020, lors du décès de son grand-père. C'est donc à ce point que le narrateur tente de comprendre comment le meurtre apparemment résolu de l'année 1976 continue toujours en 2020 de troubler son village. Comment on cherche encore, des décennies plus tard, à cacher ce qui s'est réellement passé cette soirée-là? Et jusqu'où certains sont prêts à aller pour que cette histoire reste morte et enterrée. L'auteur réussit, à travers ces époques, à tisser une intrigue solide et sordide, dont le dénouement vous surprendra sans doute. C'était « La revanche de la table de chevet », numéro 141. Un texte de Jean-Philippe Guy, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.
Quota de Sébaste, la ministre Leboutillier promet une surveillance accrue de la pêche. Un texte de Radio-Canada, avec les informations de Réal Fradette et de La Matinale, paru le 12 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador. Alors que la pêche commerciale au Sébaste ouvre samedi, la ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Leboutillier, prévient que les agents du ministère des Pêches et des Océans, MPO, vont surveiller plus attentivement les bateaux. Après 30 ans de moratoire sur cette pêche dans le golfe du Saint-Laurent, le quota total de capture autorisé cette année a été rehaussé à 60 000 tonnes fin mai. C'est plus du double que le quota plancher de 25 000 tonnes initialement annoncé par Ottawa. Malgré cette importante hausse, des associations de pêcheurs déplorent la répartition du quota. Ils critiquent notamment ce qu'ils jugent être la concurrence déloyale des grandes entreprises, car le MPO a offert 60 % du quota aux bateaux hauturiers, soit les navires de plus de 100 pieds. D'autres pêcheurs se sentent lésés, comme les crevettiers, qui ont obtenu 10 % du quota pour compenser le déclin de la crevette en partie attribuable au Sébaste, prédateur du crustacé. C'est loin de permettre la survie des crevettiers, martèle Jean Lantaigne, le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, FRAPP. Selon lui, les pêcheurs de crevettes du Québec, de Terre-Neuve et du Québec auront le droit à environ 5 500 tonnes sur les 2,5 millions de tonnes de Sébaste qui seraient dans le golfe du Saint-Laurent. Des caméras et des agents sur les bateaux. À ces critiques, la ministre Diane Leboutillier assure qu'elle fera preuve de fermeté face au conglomérat. J'ai ouvert une pêche commerciale au Sébaste, pas une pêche aux prises accessoires. Pour les plus gros bateaux, on va avoir une surveillance sur les ponts 24 heures sur 24, indique la ministre lors d'une entrevue à La Matinale. En effet, la pêche au Sébaste peut générer des prises accidentelles ou accessoires, c'est-à-dire la capture d'espèces non désirées et parfois vulnérables. Plus tôt ce mois-ci, le groupe de conservation à but non lucratif Oceana saluait la volonté de surveiller les captures à bord des bateaux et la mise en place de mesures strictes prévues par Ottawa pour prévenir la surpêche. Diable Boutillier précise également que des caméras seront installées sur certains bateaux. Avec ces mesures, elle se défend de ne pas prendre le parti des pêcheurs des régions. On ne peut pas me reprocher de ne pas écouter les craintes des pêcheurs et de l'autre côté dénoncer les mesures qu'on met en place en disant qu'elles sont trop restrictives. C'était Cota de Sébaste, la ministre Leboutillier promet une surveillance accrue de la pêche, un texte de Radio-Canada avec les informations de Réal Fradette et de La Matinale, paru le 12 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.
La grenouille dans la marmite. Une chronique d'Aurélie Langteau, parue le 4 août 2023 dans Le Devoir. Alors que les vacanciers se préparent doucement à renouer avec la routine, les manchettes climatiques angoissantes se multiplient. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, après un mois de juin, lui-même exceptionnellement chaud. Plus de 80 % de la population mondiale aurait expérimenté une chaleur exceptionnelle dans les dernières semaines et les canicules observées dans l'hémisphère nord auraient été pratiquement impossibles sans le réchauffement climatique lié aux activités humaines, dit-on. Incendies ravageurs, vagues de chaleur et d'humidité létale, records de température des mers et des océans. Nous sommes entrés dans l'ère de l'ébullition mondiale, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alors que ce nouvel état catastrophique des choses pourrait devenir la norme. On dira, en riant jaune, la bonne nouvelle, c'est que cet été pourrait bien être le plus confortable du reste de notre vie. À propos de mauvaises blagues, le Wall Street Journal publiait cette semaine le texte d'une chroniqueuse qui, le plus sérieusement du monde, avance que la manière alarmante de couvrir les changements climatiques, soit de présenter des données objectives, on notera, plonge les gens dans un état de détresse psychologique non nécessaire. En gros, préoccupez-vous moins des données, cessez de vous focaliser sur les projections faites par la science, sortez un peu dehors, équipez-vous correctement et tout ira bien. L'anxiété climatique est une maladie mentale de Snowflake. C'était en gros l'argument. Ce texte serait tout à fait anecdotique si cette posture n'était pas aussi répandue à un degré plus ou moins caricatural. Une posture que l'on pourrait associer, littéralement, à celle de la grenouille dans la marmite, qui flotte paisiblement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui caractérise aujourd'hui les climato-sceptiques n'est pas tant la contestation de l'impact de l'activité humaine sur le climat ou même de l'existence des changements climatiques, mais plutôt une minimisation de l'intensité de ce qui se produit sous nos yeux. C'est un refus obstiné de prendre un pas de recul, de regarder le portrait général et de cerner la tendance. Ce que l'on pallie en exagérant dangereusement notre capacité d'adaptation. Il n'y a pas de panneau ou de garde frontalier à la frontière de la zone de boucle d'or, écrit le journaliste spécialisé en environnement Jeff Goodell dans son ouvrage tout juste paru « The Heat Will Kill You First, Life and Death on a Scorched Planet ». Il fait ainsi référence au principe de boucle d'or qui désigne en gros les conditions atmosphériques sous lesquelles la vie peut prospérer. La formule évoque le caractère flou de la frontière de la vie. Toujours un peu plus de chaleur, toujours un peu plus d'humidité accumulée dans l'atmosphère, toujours un peu moins de biodiversité, d'accès à la nourriture, à l'eau, à la fraîcheur. Les gens qui s'entêtent à croire que l'effondrement n'est pas pour demain matin ont raison, au sens où il n'y aura probablement pas, du jour au lendemain, un grand cataclysme qui changera tout. C'est plutôt la multiplication, lente et douloureuse, des facteurs qui aggravent la vulnérabilité des populations, la superposition des petites catastrophes et le coût croissant, en ressources comme en argent, de l'adaptation qui rendront intolérables les conditions de vie d'une proportion toujours plus grande de la population. Même dans l'état actuel des choses, démontre Goodell de manière implacable dans son livre, tout indique que nous sous-estimons gravement l'impact de la chaleur sur nos vies. D'abord, nous sous-estimons les risques posés par la chaleur sur le corps. Dans un chapitre saisissant, Goodell vulgarise la rapidité avec laquelle la chaleur et l'humidité, à un niveau que l'on voit déjà dans plusieurs régions du monde, peuvent tuer. La minimisation des risques liés à la chaleur, souligne-t-il, est aussi connotée socialement. On aime bien prétendre, par exemple, que les personnes contraintes de travailler de longues heures dans une chaleur intense sont plus habituées ou plus adaptées au risque de chaleur. En gros, les populations du sud global. En réalité, il s'agit d'une catégorisation politique. Il y a des gens dont la santé nous inquiète moins. Comme par hasard, ce sont aussi les gens qui, à l'échelle du monde, ont le moins les moyens de se rafraîchir. Les inégalités environnementales, démontre Goodell, sont particulièrement saillantes en matière d'adaptation aux températures extrêmes. Dans la plupart des grandes métropoles, les infrastructures et aménagements sont piètrement adaptés à la chaleur, forçant le recours à l'air climatisé partout. Or, cela ne règle pas le problème de l'augmentation de la température ambiante, en plus de générer des GES et d'aggraver les inégalités sociales. Dans les villes en proie aux chaleurs dangereuses, bien des foyers sont contraints de gruger le panier d'épicerie pour payer la facture d'électricité. En parallèle, les besoins énergétiques liés à la climatisation connaissent une croissance fulgurante partout dans le monde. Pourtant, un consensus se dégage. L'air climatisé ne nous sauvera pas de la chaleur extrême. S'adapter à la réalité d'une planète dangereusement chaude nécessiterait une transformation profonde de nos milieux et de nos modes de vie. La première étape est de reconnaître la gravité du problème. C'était « La grenouille dans la marmite », une chronique d'Aurélie Langteau, parue le 4 août 2023 dans Le Devoir.
Comment ne pas être cool? Un texte d'Audrey Pajot-Marcotte, paru le 4 juillet 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Bien des gens éprouvent un plaisir certain à regarder des vidéos cringe, mais personne ne voudrait faire l'objet d'un mème viral ou d'un sketch du bye-bye pour autant. À l'ère de TikTok, des gens contournent leur peur de passer pour quétaine et de devenir la cible de moqueries en ajoutant une seconde couche d'ironie à leur contenu. Explication d'un phénomène web de moins en moins niché. Il m'arrive parfois, par curiosité, de consulter la section « Souvenirs » de mon profil Facebook. En relisant mes vieux statuts, je finis presque tout le temps par grimacer d'embarras. Comment ai-je pu croire que publier ce statut « Audrey PM regarde des lolcats, hashtag merci la vie » était une bonne idée? Cette affirmation sincère de mon amour pour les mèmes de chat, jumelée avec le mot « clic » le plus cliché du monde et exprimé à la troisième personne, la formule typique des débuts de Facebook, me donne à présent envie de creuser un trou dans le sol et de m'y ensevelir à jamais. Cette réaction à la fois physique et émotionnelle c'est le cringe. Le terme est aussi employé quand on veut qualifier des contenus qui provoquent une gêne par procuration chez ceux et celles qui les regardent. C'est d'ailleurs une forme d'humour particulièrement prisée en télévision, qu'on songe aux télé-réalités ou encore aux comédies ironiques, pensons aux séries The Office ou Chez nous, Like moi, et Complètement lissé. Au cours des 20 dernières années, ce genre d'humour a gagné en popularité au point de donner naissance à ce qu'on appelle la culture du cringe, qui décrit le penchant d'une bonne partie de la société à tirer du plaisir ou de la fascination à regarder le comportement maladroit ou embarrassant de quelqu'un d'autre ou de soi-même. Le tout s'est rapidement développé sur les réseaux sociaux où les contenus de ce type abondent. Danse maladroite, mise en scène gênante, blagues qui tombent à plat. Le cringe est devenu à la fois une source de divertissement et un miroir de nos propres peurs d'exclusion sociale. Ce qui mérite d'être qualifié comme tel reste cependant subjectif. C'est aussi devenu une source de revenus pour de nombreuses créateurs, créatrices TikTok. En effet, si vous regardez sous le mot-clic hashtag CringeTok, vous découvrirez des milliers de vidéos d'humoristes qui s'amusent à interpréter des personnages affichant des comportements qui provoquent chez le public cette réaction de gêne et d'embarras. Selon l'article du New York Times, ces vidéos sont différentes de celles involontairement cringe, dans lesquelles une surabondance de sincérité combinée à un manque de conscience de soi met les spectateurs mal à l'aise. À n'en croire le psychologue Philippe Rocha, le cringe est une réaction automatique d'empathie qui mène soit à la compassion, soit au mépris. C'est d'ailleurs l'un des risques intrinsèques de la culture du cringe, celui de glisser vers un cynisme où la sincérité, l'authenticité et l'individualité sont méprisées. Il suffit de penser à Ghislain Raza, le fameux Star Wars Kid, dont l'expérience surréelle d'avoir donné naissance malgré lui à un mème viral a été relatée dans un documentaire de l'ONF sorti l'an dernier. Cependant, il existe de plus en plus d'artistes du web ou même de simples utilisateurs utilisatrices des réseaux sociaux qui prônent notamment un retour à la sincérité en subvertissant la culture du cringe pour la faire évoluer vers ce qu'il et elle appellent le post-cringe et le méta-cringe, deux primes qui permettent de jeter une lumière différente sur un contenu afin de se libérer de la peur d'être jugé cringe. Comprendre l'échelle ironique. L'évolution du cringe ainsi que sa subversion sont calquées sur le modèle des mèmes. Comme en analyse mémétique, on observe différentes couches ou niveaux d'ironie. Niveau 0. Il s'agit du cringe sincère. C'est un contenu ou une œuvre dénuée d'ironie. À titre d'exemple, on peut penser à la fameuse performance musicale impromptue de Sophie Grégoire Trudeau. En 2016, alors qu'elle s'adressait à la presse lors d'un événement en l'honneur de Martin Luther King, la première dame du Canada a soudainement eu envie de chanter une chanson qu'elle avait composée pour sa fille. Cette démonstration d'un surplus d'émotions exprimée avec sincérité et sans self-awareness, traduction très libre, connaissance consciente de son propre caractère, de ses sentiments, de ses motivations et de ses désirs, jumelé à son caractère incongru, a fait en sorte que l'extrait vidéo de la prestation est rapidement devenu viral et a été qualifié par plusieurs de « cringe ». Niveau 1. C'est là où l'ironie embarque, où on dit le contraire de ce que l'on pense réellement, souvent dans un but humoristique ou critique. On peut penser aux vidéos de l'humoriste Arnaud Soli qui parodie certains types de contenus d'influenceurs-influenceuses. Comme je l'ai mentionné plus haut, le cringe ironique est particulièrement populaire sur TikTok. Plus un contenu est pénible à regarder en raison de l'embarras que l'on ressent par procuration, plus il est apprécié. Vous écoutez « Comment ne pas être cool », un texte d'Audrey Pajot-Marcotte, paru le 4 juillet 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Niveau 2A. Cette seconde couche est un peu plus complexe et peut prendre deux aspects distincts, le post-cringe et le méta-cringe. Le post-cringe, c'est le retour à la sincérité après avoir traversé le prisme du cringe. Selon l'essayiste Andrew McWhinney, cette approche permet d'apprécier tout produit culturel de façon holistique, en trouvant un juste équilibre entre le plaisir et l'engagement critique. Le but n'est pas de penser qu'une personne ou un contenu est drôle ou ironique. Elle est très sincère, mais elle comprend aussi qu'elle est cringe, donc elle est aussi consciente d'elle-même. C'est l'acceptation du fait que nous devrions embrasser notre propre cringe, explique Agus Panzoni, experte en tendances culturelles et consultante pour la banque d'images Death to Stock, qui a dégagé les grands principes de la tendance méta-cringe sur ses comptes TikTok et Instagram. Dans cette optique, le dernier album de Lisa Leblanc, Chiac Disco, pourrait être qualifié de post-cringe. Si l'autrice, compositrice, interprète s'est bien amusée avec son alter ego caricatural Belinda pendant la pandémie, notamment lors de séances de bingo diffusées en direct, le personnage lui a néanmoins permis de retrouver sa créativité. Chiac Disco représente alors pour elle un retour au bonheur de faire de la musique après avoir vécu deux épuisements professionnels. Niveau 2B. L'autre aspect de cette seconde couche d'ironie est beaucoup plus insaisissable. C'est le méta-cringe qui brouille intentionnellement la frontière entre sincérité et cringe. Une manifestation de ce type est délibérément nébuleuse dans son intention et laisse les témoins dans le flou quant à la posture adoptée par la personne filmée. Parfois, on arrive à percer le secret du méta-cringe. Parfois, non. Selon Panzoni, le méta-cringe pourrait marquer le début d'une ère où nous nous prenons beaucoup moins au sérieux, où on préférera embrasser la créativité et le plaisir plutôt que les conventions de ce qui est cool ou de bon goût. Hors des réseaux sociaux, le méta-cringe se manifeste dans de nombreuses disciplines artistiques. La chanteuse américaine Hemlock Springs crée ce qu'elle appelle une « awkward black girl music », musique de fille noire maladroite. Sa maîtrise des codes et des référents associés à cette variation de cringe fait en sorte qu'on ne connaît pas exactement le degré de sincérité de sa musique et de son image. Plus près de chez nous, on peut citer le néo-écossais Petit Béliveau, qui d'une part présente sa musique au thème sincère et authentique, et qui, d'autre part, affiche une présence chaotique sur les réseaux sociaux, fortement influencée par la culture mimétique, mélangeant ainsi les perceptions. En humour, le Canadien Nathan Fielder s'impose comme un maître du méta-cringe. Sa nouvelle série, The Rehearsal, pousse la confusion à son paroxysme au point où les critiques médiatiques s'avouent incapables de poser un jugement définitif sur l'authenticité de l'émission. Est-il un manipulateur cruel ou un génie de la comédie? L'humoriste québécois Anthony Montreuil exploite également le méta-cringe dans son travail en entretenant une certaine confusion sur la part réelle ou fictive de sa personnalité sur scène. Brouiller les pistes. Cette mouvance pourrait-elle changer nos rapports en ligne et dans le monde réel? Alors que nos identités virtuelles sont de plus en plus uniformisées par la marchandisation de nos contenus et que les attentes sociétales qui en découlent se font de plus en plus rigides, l'usage du post-cringe et du méta-cringe est une forme de résistance. Cool is dead, cringe is free. Le cool est mort, vive le cringe. Tel pourrait être le slogan de cette résistance. Ce refus d'adhérer à l'injonction de la norme a un impact jusque dans nos garde-robes. Le regain de popularité des chaussures crocs, autrefois répudiées par les prêtres et prêtresses du bon goût, vient avec sa couche de post-cringe et même de méta-cringe. certaines ont décidé de porter sans honte leurs chaussures en plastique mou, tout en étant conscientes de leur facteur cringe. Cette lente accoutumance fait en sorte que lorsqu'on croise quelqu'un qui porte des crocs, il peut être difficile de déterminer si la personne aime les porter de façon sincère. C'est justement ici qu'on touche au cœur de la question du méta-cringe. Dans l'incapacité du public à déterminer la présence ou l'absence d'ironie chez Petit Béliveau, Lisa Leblanc ou l'amoureux l'amoureuse des crocs. Le méta-cringe représente également une forme de résistance contre l'accélération du cycle des tendances et du même coup de la surconsommation. Si tout est tendance, alors rien n'est cringe. Je crois qu'il y a une réelle fatigue qui résulte du cycle des tendances et des buzzwords qui apparaissent tous les jours. Il y a donc un élément méta-cringe dans l'utilisation de ces buzzwords d'une manière qui ne permet pas de savoir si cette utilisation est ironique ou non. Certaines communautés du milieu de la mode, ici à New York, font cela, au point où le fait d'adopter les tendances à ce stade devient cringe, ajoute Panzoni. Jean-Michel Berthiaume, doctorant en sémiologie et expert en culture populaire, y voit de son côté la version contemporaine d'un débat datant des années 1990 et du début des années 2000 au sujet de la marchandisation des artistes. C'est un acte de résistance envers les personnes qui sont en train de faire une mise en scène avouée et mercantile, explique-t-il. C'est la même tension. C'est dire « je ne vais pas reproduire ce que TikTok ou toute autre plateforme me demande de reproduire. Je vais produire quelque chose qui est plus sincère et authentique. » Finalement, l'ambiguïté inhérente au méta-cringe permet de résister à la simplification de l'identité et de l'expérience humaine. Nous sommes tous des êtres complexes avec des émotions ou des idées éclectiques et parfois contradictoires. C'est une sorte de célébration du chaos, comme le suggère Panzoni, une occasion d'exprimer tout ce que nous sommes, crocs et lolcats compris. Audrey Pajot-Marcotte est fascinée par les mécanismes de l'humour, ainsi que par la culture Internet. Elle aime repérer et décortiquer les tendances pour ensuite les mettre en contexte. Elle aime aussi Connie Francis et déteste les aubergines. C'était « Comment ne pas être cool », un texte d'Audrey Pajot-Marcotte, paru le 4 juillet 2023 dans le magazine Nouveau Projet.